C'est Elia Maria Madiara. Comme les blessures, mais qui font entièrement partie de la carrière et qu'il faut savoir gérer, sinon ce serait trop facile. Pour nous, les sportifs, c'est comme si c'était demain. Hein. Des Olympiades, ça se prépare suivant les sports 1, 2 ou 4 ans à l'avance. On nous donne toujours la parole au moment des résultats, au moment des championnats. Mais je pense que finalement, est-ce que tout le cheminement avant ne serait pas aussi, voire plus intéressant ?
Ce rapport qu'on peut avoir en fait entre l'ombre et la lumière.
Salut les sportifs, je suis Hermano et je suis vraiment enchanté de vous recevoir pour ce nouveau podcast que l'on va appeler Dans les vestiaires. Comme son nom ne l'indique peut-être pas, ce podcast va se concentrer sur le financement des carrières des sportifs. Nous allons détailler avec nos invités comment est-ce que l'on finance une carrière de sportif, que l'on soit professionnel, que l'on soit amateur ou même que l'on soit une de ces petites mains qui va aider les sportifs à s'en sortir ou même des organisateurs, enfin toutes ces personnes qui font le sport. À mes côtés, j'aurai la chance d'avoir pour certains épisodes l'ami Barthélémy qui est aussi le producteur d'un podcast que j'apprécie énormément qui s'appelle Extraterrien. Barthélémy vous propose à travers son podcast Extraterrien de comprendre les mécanismes que les sportifs mettent en place pour réussir dans leur carrière. Pour ouvrir le premier casier de ce vestiaire, j'ai eu l'énorme chance d'échanger avec Elia Mariama Diara qui va nous en dire un petit peu plus sur elle mais aussi sur sa carrière et je la remercie énormément parce qu'elle a été la première à répondre présente. Elle s'est livrée avec beaucoup de sincérité. On a même dû déplorer des problèmes techniques et vous l'entendrez dans le courant de cette interview. Nous avons dû ajuster un petit peu la qualité de l'enregistrement parce que nous avons dû enregistrer en deux fois. Alors ce que je vous propose c'est d'écouter dans un premier temps l'interview que nous avons enregistrée dans un second temps et puis vers 27 minutes vous entendrez que la qualité sonore change un peu. Là on revient sur la première interview qu'on avait eu l'occasion de faire mais il me tenait absolument à cœur de vous partager dans un seul et même épisode ces deux interviews. Elia s'est rendue disponible pour vous pour partager avec vous ces éléments qui la constitue et comment est-ce qu'elle a pu financer sa carrière de sportive de haut niveau jusqu'à présent. Également parce qu'on y a abordé des sujets qui parfois sont un petit peu différents et il me semblait très important que tous ces éléments soient partagés. Juste avant d'ouvrir le premier casier de ce vestiaire et de vous laisser découvrir la magnifique interview que nous avons réalisée avec Barthélémy, je vous invite à aller sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire et évidemment une note 5 étoiles. Barthélémy le rappelle souvent, vous le savez, un exploit ne se réalise jamais seul. À l'instar des sportives et des sportifs de haut niveau qui s'entourent d'une équipe compétente pour les aider à atteindre leur objectif, eh bien nous avons de grandes ambitions avec ce podcast. La première étant bien entendu de vous faire comprendre, d'évangéliser le commun des mortels sur le fait que la carrière de sportif de haut niveau c'est un combat du quotidien, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour, qu'un sportif de haut niveau n'est pas forcément professionnel des médias, même si les plus grands sont très heureux, financent très bien leur carrière, la majorité des sportifs de haut niveau, et vous l'entendrez avec cette interview d'Eléa, se bat chaque jour pour obtenir un financement. Si vous pouviez nous aider en notant ce podcast, en le faisant connaître par le plus grand nombre, en en parlant avec vos amis, votre famille, vos voisins, eh bien on aurait déjà gagné un premier combat. Si vous souhaitez nous recommander des sportifs, eh bien sachez que ce podcast est présent sur tous les réseaux sociaux. On vous met tous les liens en description de cet épisode ainsi que tous les liens pour pouvoir joindre notre invité. Sur ce, je vous embrasse, je vous laisse avec cette superbe interview. Salut les sportifs! Salut les sportifs, bienvenue sur ce premier épisode du podcast Dans les vestiaires. Et comme son nom ne l'indique peut-être pas, le sujet principal va être le financement des carrières des sportifs de haut niveau. Et pour commencer cette série, nous avons la chance d'avoir Elia Mariama Diara. Elia, on va te laisser le micro dans quelques minutes pour te présenter. Mais juste avant de passer à notre invité, je voudrais présenter mon co-animateur, à savoir Barthélémy. Salut Bart.
Salut Hermano. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir proposé de co-animer ce super podcast avec toi. Et pour les auditeurs qui ne me connaissent pas encore, j'anime un podcast qui s'appelle Extraterrien et dans lequel j'interview des athlètes de haut niveau pour leur demander un petit peu de raconter leurs histoires et leur demander de dévoiler un petit peu leurs secrets pour atteindre le haut niveau justement.
Merci Bart. Et effectivement, si nos auditeurs ne connaissent pas encore, je les invite à se brancher tout de suite sur le podcast extraterrien. De toute façon, on mettra tous les raccourcis, tous les liens dans les notes de l'épisode parce que c'est vraiment un podcast très inspirant et je suis honoré que tu acceptes de co-animer avec moi cette série de podcasts. Et bien, comme je le disais en introduction, ce que je vous propose, c'est de donner tout de suite le micro à notre invité. On a dit, tu t'appelles Eléa, mais peut-être que tu peux nous en dire plus sur toi, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Oui, bonjour d'abord Hermano, bonjour Barthélémy, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Donc moi, comme tu l'as dit, c'est Eléa Maria Madiara, je suis athlète de haut niveau, je suis en équipe de France d'athlétisme. Je fais du haut niveau depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus. J'ai 29 ans, je fais du 400 mètres et je suis souvent présente en équipe de France dans le cadre du relais 4x400 mètres. Voilà.
Déjà une belle carrière, 29 ans, j'imagine que tu es passé déjà par beaucoup de phases que rencontrent déjà les sportifs et sportives amateurs, puis les sportifs qui commencent à se diriger vers le haut niveau, puis le haut niveau. En termes de palmarès, je crois que tu as aussi déjà un beau palmarès.
Alors oui, c'est sûr que bon, je fais du haut niveau depuis que j'ai 18 ans, donc comme je vous le disais, un peu plus de 10 ans. Et j'ai vécu beaucoup de choses. La plupart des choses sont très, très heureuses et très bien. Des choses un peu moins bien comme les blessures, mais qui font entièrement partie de la carrière et qu'il faut savoir gérer, sinon ce serait trop facile. En termes de palmarès, j'ai été deux fois championne de France élite sur 400 mètres. La première fois en 2011 à Albi, puis la deuxième fois en 2017 à Marseille. Dans le relais du 4x4, dans le relais 4x400 mètres, pardon, on a été de nombreuses fois. Non, on a été plusieurs fois vice-championne d'Europe. On a été championne d'Europe en salle en 2015 à Prague. Au dernier championnat d'Europe qui était en 2018 à Berlin, on a terminé deuxième également et on avait fait quatrième aussi en 2017 au championnat du monde, cette fois-ci à Londres.
Très beau palmarès en individuel et en équipe, c'est magnifique.
Je me plains pas, c'est plutôt pas mal. Après, il y a toujours encore quelques petites frustrations, mais c'est ce qui fait aussi qu'on continue encore à 29 ans pour essayer d'atteindre encore les derniers objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre.
Alors justement, tu parles d'objectifs que tu n'as pas forcément réussi à atteindre. Je crois que en cette année 2020 qui arrive à grands pas, il y a un gros objectif vers lequel tous les coureurs de l'équipe de France s'engagent.
Oui, tout à fait. Donc, on est en année olympique, on est en 2020. C'est les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu en juillet, donc dans 7 mois maintenant. C'est vraiment tout près. Les gens ne s'en rendent pas encore compte, le grand public, si je puis dire, parce que 7 mois, ça paraît encore loin. Il y a encore pas mal de choses à passer avant, mais pour nous, les sportifs, c'est comme si c'était demain. Hein, des Olympiades, ça se prépare suivant les sports 1, 2 ou 4 ans à l'avance. Donc là, on entre vraiment dans la dernière ligne droite, si je puis dire.
Oui, parce que sur un 400, la ligne n'est pas droite. Vous tournez autour d'une piste.
Oui, c'est ça. Mais on a la dernière ligne droite qui est la plus difficile, celle où il faut être endurant, serrer les dents et ne pas craquer.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de courir sur des pistes anglaises ? Alors, moi, je sais que j'en ai une ici à Luxembourg et c'est un peu déroutant les premières fois parce que ce sont des pistes de 333 mètres. Donc, ce qui fait que sur un 400, en fait, tu finis dans le virage. Et là, c'est un peu plus difficile encore.
Ah ouais, alors j'imagine que oui, psychologiquement, ça doit être vraiment difficile de passer la ligne et de ne pas s'arrêter. Non, j'ai pas eu cette chance. Je ne sais pas si c'est une chance, mais non, j'ai connu que des pistes habituelles de 400 mètres ou alors de 200 mètres en indoor, en salle.
Le 400 mètres, on va dire, est une distance assez mythique en France. Je pense que les gens l'aiment beaucoup, encore plus que peut-être le 100 mètres ou le 200 mètres. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de courir le 400 mètres ? Comment est-ce que tu en es venu sur cette discipline et sur cette distance-là ?
Alors oui, c'est vrai que c'est une course un peu mythique, notamment grâce à Marie-Josée Pérec,
entre autres,
qui était phénoménale sur 400 mètres, qui est pour moi la recordman du monde officielle, parce qu'elle n'a pas le record du monde, mais on sait que celui... la personne qui a le record du monde était de l'Allemagne de l'Est et probablement plutôt dopée. Donc voilà, 48-20.
C'est pas du tout de saison.
Oui, non. On va éviter de parler des sujets qui fâchent. Non, mais oui, elle courait en 48-25 et c'est vrai que bon, à chaque fois, moi j'ai un record à 51-92 pour faire une comparaison, ce qui me donne quand même un niveau plutôt correct au niveau européen et mondial. Mais on est encore très loin, très très loin de ces 48-25. qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du 400 mètres? Alors, au tout début, quand j'étais jeune, je faisais de la longueur, donc j'étais pas du tout destinée à faire du 400 mètres, mais j'avais déjà quand même quelques petites qualités de course et de vitesse nécessaires au saut en longueur. Et puis, finalement, ça s'est fait assez naturellement. En compétition, très jeune, je faisais des 100 mètres parce que c'était la distance la plus longue en sprint. J'étais plutôt bien aussi sur les crosses, sur les courses d'endurance, mais j'y prenais beaucoup moins de plaisir. Et ensuite, je suis arrivée dans les catégories cadettes où moi, à mon époque, le 400 mètres n'existait pas. Maintenant, c'est le cas. Et on avait le 300 mètres. Et donc, ce qui permet de faire quand même une transition entre les catégories jeunes et le 400 mètres qui peut être assez traumatisant physiologiquement. Et donc ensuite, en catégorie junior, c'est tout naturellement que je suis montée sur 400 mètres et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je me souviens, j'ai une petite anecdote, c'est que en étant encore cadette, dernière année, je passais junior après, donc j'allais devoir monter sur 400 mètres. Mon coach m'a dit, tu vas faire un 400 mètres là avant de partir en vacances pour voir ce que ça donne, quoi, si ça te plaît, si c'est ce que tu as envie de faire. Et du coup, j'ai fait un 400 mètres à la fin de l'été en partant très, très rapidement et en explosant pour le coup complètement dans la dernière ligne droite parce que 400 mètres, 400 mètres, ce n'est pas 300 mètres. Il y a vraiment ces 100 derniers mètres qu'il faut courir. Et à la fin, je suis restée peut-être 20 minutes au sol en étant très mal et très fatiguée parce que j'avais vraiment tout donné. Et mon coach est venu me voir et je lui ai dit, je ne m'en souviens plus tellement, mais lui, ça l'a marqué parce que je lui ai dit « j'adore ça, on recommence quand ?» Alors que lui pensait que j'allais lui dire « ah non, c'est fini, plus jamais de ma vie, plus jamais de ma vie. » Donc voilà.
C'est tellement fréquent ce genre d'anecdote sur les sports, que, surtout d'endurance, que j'ai eu l'occasion de pratiquer comme l'Ironman. Le nombre de copains qui montent sur ce genre de distance et qui te disent en passant la ligne « ah, plus... » Et ils finissent même pas leur phrase, ils disent « bon, allez, le prochain,
c'est
bon. »
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Une fois passée la douleur, on va dire, on se rend compte qu'on a quand même pris vachement de plaisir sur la course. C'est une course intéressante où il peut se passer plein de choses. Finalement, il y a différentes phases et je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi cet aspect un petit peu tactique. Puisque tous les 400 mètres ne se courent pas de la même manière, il y en a qui partent très vite, il y en a qui partent moins vite, etc. Et c'est ça que je trouve très intéressant.
Je crois qu'on l'a déjà vu d'ailleurs, enfin on l'a bien vu dernièrement au dernier championnat du monde. Il y a des 400 mètres qui étaient impressionnants, qui partaient très lentement et qui explosaient sur la fin. Enfin, au sein même de la même compétition, ils ne se couraient pas tous de la même façon.
Oui, tout à fait. Oui, chacun a sa technique qui la juge, j'imagine, en fonction de ses qualités. Il y en a qui ont plus de qualité de sprint, il y en a qui ont plus de qualité d'endurance. Donc le schéma s'adapte.
En tout cas, on sent bien la passion qui t'anime dans ce sport. Tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu étais passé de la longueur aux 400 mètres. Peut-être que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ce moment, ce déclic qui a fait que tu es passé d'une jeune sportive à une sportive amateur et que tu t'es dirigée vers le haut niveau.
Alors, il y a eu plusieurs déclics. J'imagine qu'en fait, pour moi, l'accès au haut niveau... Enfin, pour une personne entre guillemets normale comme moi qui au départ n'avait pas du tout prévu de faire du haut niveau, c'est des petites marches en fait qu'on gravit et qui nous donnent envie d'atteindre la suivante. La première, c'était ma qualification en cadette pour la première fois au championnat de France, qui n'est pas rien. Pour la première fois, je voyais ce qu'était un grand championnat pour moi, un championnat national. Et du coup, mon premier championnat s'est très mal passé. J'ai fini avant-dernière parce que j'étais très stressée, etc. Et je me suis dit, l'année prochaine, je verrai et ce ne sera pas pour être aussi mauvaise. Et du coup, l'année d'après, j'y suis revenue et j'ai fait troisième, j'ai fait un podium. Donc voilà, ça a été le premier petit déclic. Il y a eu ma première sélection aussi en junior 2 à 18 ans en équipe de France. C'était pour un match junior au Maroc. Donc là, première fois que je porte le maillot de l'équipe de France, c'est pareil, ça marque et on se dit qu'on entre encore dans un autre niveau. Et forcément, ça nous plaît, donc on a envie d'y aller. Et enfin, il y a eu ma première victoire au championnat de France élite, donc là alors que j'étais encore espoir, qui est les championnats de France toutes catégories confondues, et du coup qui a enchaîné sur ma première sélection en équipe de France senior, cette fois-ci chez les grands, dans le relais 4x400 mètres. Voilà, c'est les trois gros déclics qui m'ont doucement basculé vers le haut niveau et qui ont fait que de plus en plus j'ai voulu m'impliquer et faire passer le sport en premier.
Génial. Et du coup, on voit que tu as vraiment eu une progression continue et que tu n'as pas forcément brûlé les étapes, comme ça peut arriver assez souvent, je trouve, en athlétisme. Est-ce que ça a été aussi un petit peu, on va dire, cette progression vraiment étape par étape, est-ce que ça a aussi été une progression pour toi au niveau de ta vie plus personnelle? Parce qu'on sait que des fois, la transition peut être un petit peu dure entre effectivement le jeune lycéen ou la jeune lycéenne qui est un enfant ou une étudiante un peu comme tout le monde à un sportif de haut niveau qui doit s'astreindre à une vie et une routine un petit peu plus stricte et on va dire plus dirigée vers des objectifs sportifs.
Oui, c'est sûr. Alors, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Il y a le fait que j'ai toujours gardé le même entraîneur, donc c'est quelqu'un qui me connaît parfaitement et qui ne m'a jamais non plus surentraînée. Parce qu'il y a des jeunes qui sont surentraînés et du coup qui ont du mal ensuite à progresser, ça crée une frustration et je suis restée dans mon cocon avec les gens que je connaissais, avec ma famille proche, mes amis, ce qui a fait aussi que, et puis en faisant aussi, j'avais mes études aussi dans ma ville, donc j'ai pas eu besoin non plus de bouger pour ça. Donc finalement, j'avais mes routines, tout était bien cadré pour moi chez moi. Et ça, c'est important, surtout quand ça ne va pas, quand ça va bien et qu'on est loin des siens, de son cadre familial ou amical, c'est pas très grave. Mais dès qu'on commence à avoir des coups de moins bien, ça peut être plus compliqué. Donc voilà. Et puis, j'ai aussi fait des choix en termes d'études qui m'ont toujours permis d'allier le sport de haut niveau et les études. J'ai choisi mes cursus. Et c'est pas des cursus qui étaient aménagés au départ. J'ai fait en premier, après le bac, un DUT technique de commercialisation qui devait se faire en 2 ans et qui ne devait pas être aménagé. J'ai demandé à l'aménager. J'ai demandé un rendez-vous avec la direction. J'ai expliqué mon projet, etc. Ils ont été super réceptifs et j'ai pu le passer en 3 ans au lieu de 2 ans, par exemple. Et ça, c'est des choses qui aident forcément à progresser.
Et on voit que, bon, effectivement, il y a des horaires qui ne sont pas tout à fait aménagés. Toi, ça a été assez facile d'obtenir justement ces changements. Est-ce que toi, en tant que sportif de haut niveau, tu as été bien reçu par les gens qui étaient à l'organisation du cursus universitaire?
Alors, sur les 3 écoles que j'ai faites durant ma scolarité post-bac, 2 fois sur 3, j'ai été vraiment très bien reçue. Et je pense que quand on explique aux gens et quand on montre à quel point on est passionné et déterminé, on peut être que bien reçu finalement. Il y a une fois où ça s'est un peu moins bien passé, où l'école était un peu moins réceptive, mais elle m'a quand même permis d'aménager un peu mes horaires. Donc je pense que c'est tout à fait possible.
D'accord.
Alors là, tu nous parles de tes études qui en général permettent d'accéder à un emploi et donc à une rémunération. Si on parlait de la partie qui va être le core business de ce podcast, la rémunération des sportifs de haut niveau, comment est-ce que, quand tu as décidé de switcher vers le statut de sportif de haut niveau, tu as envisagé de financer ta carrière ?
Alors, dans un premier cas, quand j'étais étudiante, parce que moi, je voulais absolument poursuivre mes études, c'est mes parents qui me soutenaient, hein, tout simplement. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent aussi le fait que je fasse du haut niveau, que je puisse pas avoir un job étudiant à côté pour subvenir à mes besoins. Et c'est eux qui m'aidaient. J'avais de la chance de rester dans ma ville, donc je restais chez eux. J'avais pas de loyer, par exemple, à charge. J'étais chez mes parents. Mais pour tout ce qui était dépenses du quotidien, c'est eux qui ont assuré pendant un bon moment. Ensuite, après mes études, j'ai terminé mes études fin 2016. Je les ai quand même bien fait durer, j'ai bien aménagé les choses.
Tu avais quel âge à ce moment-là? Du coup, tu avais 26 ans, c'est ça?
26 ans, oui, tout à fait. J'ai eu mon master à 26 ans. J'ai essayé de commencer à trouver des moyens pour devenir indépendante de mes parents parce que à 26 ans, le fait de toujours être au crochet de ses parents, ça commence à peser. Ça me pesait déjà depuis un moment. Donc, on essaye de trouver des solutions. C'est là que j'ai commencé à me tourner un peu vers la recherche de partenaires, le sponsoring. Et ensuite, depuis 2017, on est aussi aidé par la Fédération française d'athlétisme puisqu'on a eu de bons résultats dans le cadre du relais 4x400 mètres. On est salarié à mi-temps. Et du coup, je reçois un salaire donc qui est 600 euros par mois, la moitié d'un SMIC par mois, donc ce qui n'est pas énorme, mais qui permet quand même d'avoir un apport tous les mois et qui est très important, un minimum de stabilité financière, si je puis dire, parce que le problème avec la recherche de partenaires, c'est qu'on ne sait pas quand ça va tomber, on ne sait pas combien. C'est un peu compliqué pour gérer des dépenses quotidiennes et des charges qui tombent tous les mois, quoi.
Et encore, je trouve que tu es relativement chanceuse. Alors effectivement, c'est de la chance qui est provoquée parce que tu as un très beau palmarès et tu as fait des beaux résultats, mais que la fédération puisse te soutenir, parce que je crois savoir que c'est pas forcément le cas de tous les sportifs de haut niveau français, et même au sein de l'athlétisme, il y a quand même beaucoup de d'étapes à franchir, beaucoup de résultats à faire pour pouvoir obtenir un soutien. Et là, tu nous dis que vous êtes soutenu, malgré tout, ce n'est qu'un demi-SMIC, donc c'est quand même pas ça qui paye, qui remplit le frigo et qui paye le loyer au jour le jour. Donc vous êtes quand même obligé de vous battre au quotidien, enfin très régulièrement, pour aller à la recherche de sponsors qui vont vous permettre des dotations produits ou des dotations services ou des partenaires financiers qui vont pouvoir vous verser un certain montant, soit pour vous déplacer à tel ou tel endroit dans le cadre des compétitions, soit pour subvenir à votre quotidien.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, je suis chanceuse et pas chanceuse dans le sens où si j'avais été dans un autre sport, j'aurais été peut-être plus rémunérée. Si j'avais été un homme aussi, j'aurais été peut-être plus rémunérée. Mais par contre, je me rends bien compte que dans l'athlétisme, en tout cas, au sein de la Fédération française, on est quand même très peu à recevoir des salaires mensuels. Et donc, de ce point de vue, je suis assez chanceuse. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Et il faut se bouger, si je puis dire, pour trouver d'autres sources de financement.
Et d'ailleurs, je me demandais, puisque effectivement la fédération vous aide, est-ce qu'elle vous aide aussi à trouver des sponsors? Est-ce qu'elle vous met en relation avec des entreprises? Parce qu'on sait quand même qu'une fédération, c'est une structure qui attire beaucoup les entreprises qui souhaitent notamment communiquer à travers les athlètes. Est-ce que la fédération vous forme, vous accompagne, vous prend par la main pour justement aller compléter, on va dire, ce tour de financement?
Alors, oui et non. La fédération a à disposition des contrats d'image, ce qu'on appelle des contrats d'image, c'est des contrats avec des entreprises donc où l'athlète signe avec une entreprise un contrat d'image, donc il ne travaillera pas vraiment pour l'entreprise, il aura quelques jours de présence à faire dans l'année, mais voilà, c'est surtout de la représentation. Et ces contrats sont malheureusement, je vais parler de mon point de vue, donc je vais dire malheureusement, réservés aux athlètes top élite, les forts potentiels olympiques, ce qu'on appelle, qui sont potentiels médaillables olympiques, donc qui ont souvent un très bon palmarès, c'est les plus forts, c'est ceux dont tout le monde connaît le nom, et c'est souvent pas ceux qui ont le plus besoin de financement. Ouais, c'est plutôt la couche en dessous, juste en dessous, qui est nous, qui sommes à un bon niveau, qui en termes d'investissement, on est pareil que ces athlètes, mais en termes de revenus, on est beaucoup moins soutenus. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage à ce niveau-là.
C'est vrai que tu mets en lumière un petit paradoxe, c'est que d'un côté, il y a des sportifs qui ont en fait tout simplement déjà assez de renommée pour trouver des revenus, on va dire, un petit peu par eux-mêmes, et qui sont déjà accompagnés, alors que vous, à l'inverse, peut-être parce que vous manquez un tout petit peu de lumière et de notoriété, on vous accompagne pas plus, quoi.
Tout à fait. Après, oui, c'est le jeu, hein. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux, à nous de le transformer du bon côté.
Hermano, tu voulais rebondir là-dessus?
En fait, moi, après, je voulais rebondir sur la suite, c'est-à-dire tu nous as dit qu'effectivement, au quotidien, c'est difficile, que tu as fait de longues études, enfin des études que en plus tu as prolongées parce que tu as pu aménager ton temps pour aller sur des spots d'entraînement, enfin pour t'entraîner dur et pour aller sur des compétitions. Est-ce que malgré tout, et surtout à 29 ans, tu as déjà un peu plus de maturité que les petits jeunes, tu as une visibilité sur la suite? Comment est-ce que tu envisages ta reconversion, si reconversion il y a, enfin reconversion il y aura, et oui, comment est-ce que tu l'envisages? Est-ce que tu imagines que tu auras un train de vie qui sera autre que celui du sportif de haut niveau?
Alors oui, hein, reconversion il y aura, parce que on est obligé. Je l'ai beaucoup, j'y ai beaucoup pensé dans les dernières années là, et j'essaie d'y penser de moins en moins en fait, parce que les fois où j'y ai pensé, moi je me vois plutôt justement dans l'entrepreneuriat. Parce que je me dis que ça peut être, ça va bien avec ma personnalité, et ça peut être une continuité du sport de haut niveau, puisque finalement c'est un peu les mêmes qualités qu'il faut. On se fixe des objectifs relativement élevés, avec un risque de ne pas y arriver, mais on met tous les moyens en place pour l'atteindre. Et donc il y a beaucoup de similitudes. Après, forcément, quand on commence à réfléchir à des projets de création d'entreprise, c'est quelque chose qui nous prend la tête entre guillemets, et c'est de l'énergie que je déplace, que je devrais avoir dans mon entraînement, et de la concentration que je devrais avoir dans mon entraînement et pas ailleurs en fait. C'est vraiment deux gros projets, je pense. Enfin, je dis pas que c'est pas possible de faire les deux correctement. Certains, ils sont peut-être arrivés, mais moi je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et voilà, les deux, trois fois où j'ai voulu, où j'ai eu des idées, des choses concrètes, et ben ça commençait à embrayer sur des choses que j'allais pas pouvoir assumer au niveau de mon emploi du temps, etc. Donc voilà, pour l'instant, j'ai des idées, mais elles sont rangées dans une petite boîte tout au fond de mon cerveau. Et aussi parce que tout simplement, j'ai pas envie de passer justement à côté de mes dernières années de carrière, parce que j'ai voulu brûler les étapes, j'ai envie d'être à 100% dans le moment présent pour profiter des derniers moments. Voilà.
C'est très intéressant ce que tu dis. Alors déjà, j'en profite pour faire un clin d'œil à Bart, parce que c'est vrai que sur les différents épisodes du podcast qu'il a pu enregistrer d'extraterriens, souvent, quand tu interviews des sportifs de haut niveau ou d'anciens sportifs de haut niveau, on sent bien cette résilience du sportif qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout et qui souvent se transforme en chef d'entreprise et qui vit la même chose. Et je pense que ça résonne très bien ce que tu dis, Eléa, avec ces interviews que fait Bart. En gros, ce que tu nous dis, Eléa, si je comprends bien, c'est que non seulement tu veux donner 100% de ta concentration pour ton sport, mais en plus tu veux éviter cette frustration de te dire mince, si je pouvais, j'irais, mais là c'est pas le bon moment.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que le pire, c'est que j'ai des opportunités. Des fois, j'ai des gens qui me disent tiens, si ça t'intéresse. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se recentrer, se demander ce qu'on veut vraiment. Moi, ce que je veux vraiment, c'est atteindre les objectifs que j'ai pas atteints, terminer en beauté ma carrière, et j'aurai ensuite du temps pour aller travailler, et j'aurai d'autres opportunités. Et voilà, je laisse faire les choses. Je suis quelqu'un qui... Je suis organisée, mais je fais toujours confiance à cette petite étoile. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me guidera, je saurai à quel moment il faut que je fasse les choses. Et pour l'instant, on est encore dans le sport, quoi. C'est pas encore le moment de réfléchir à l'après.
Bah, je pense que tu fais bien, effectivement, de rester concentré sur la fin de ta carrière sportive, et puis ne t'en fais pas, effectivement, il y a plein de qualités et de ressources que tu pourras tirer pour plus tard, si tu le veux, monter ta petite affaire ou monter une grosse entreprise. Il y a vraiment vraiment beaucoup de choses. Moi, juste pour rebondir et peut-être clôturer le sujet, une des choses que j'ai beaucoup vues, c'est qu'effectivement les reconversions qui se passent pas très bien, généralement c'est celles qui sont pas du tout réfléchies à l'avance, ou des fois un petit peu les reconversions qui sont un petit peu forcées. Tu vois, ça peut être soit par une blessure, soit par effectivement un contrat de sponsoring qui s'arrête, et du jour au lendemain il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, toi, tu as l'air d'être très consciente de tout ça, donc je me fais aucun souci pour toi. Je voulais justement rebondir un petit peu par rapport à ça. Il y a eu aucun moment où tu t'es justement dit plutôt que d'aller chercher des sponsors, est-ce que ça vaudrait pas mieux finalement que je fasse un peu les choses moi-même et que soit, je sais pas, tu puisses trouver un travail, monter un groupe d'entraînement, faire du coaching. Ça t'est jamais effleuré l'idée de plutôt que de dépendre un peu des entreprises, de pouvoir toi avoir une source de financement qui soit autre?
Alors si, ça m'a traversé l'esprit, hein, bien sûr. J'ai tenté de travailler à mi-temps. Pour voilà, ne pas avoir à dépendre des entreprises, mais c'était compliqué au niveau de la récupération, etc. Parce que moi, je suis une athlète plutôt fragile. Je me blesse assez facilement. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'être athlète à temps plein et de ne pas faire quelque chose à côté. Parce que bah, quand on fait quelque chose à côté, on a tout à fait le temps de s'entraîner. Par contre, ce qu'on n'à pas forcément le temps de faire, c'est tous ces à côté, ces petits à côté qui font la différence, à savoir faire attention à sa récupération, aller chez le kiné autant de fois qu'on en a besoin, aller en cryothérapie par exemple, enfin voilà, faire tout bien à côté pour que le corps résiste aux blessures, assume la charge d'entraînement et ne nous lâche pas au milieu de l'aventure, quoi.
Le fameux entraînement invisible.
Tout à fait.
C'est génial parce que là, tu nous déroules vraiment le tapis rouge parce que du coup, ça me permet de faire un clin d'œil à mes podcasts, à moi cette fois-ci, où si nos auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur comment s'entraîner, les différents points d'attention sur l'entraînement et notamment l'endurance, je vous invite à aller écouter le podcast de Nakan ou le podcast d'une de tes consoeurs, Léa, qui est le podcast de Fans, où on en parle beaucoup parce qu'elle est, elle se dirige doucement aussi vers sa fin de carrière. Elle a 10 ans de plus que toi et je crois qu'elle a besoin aussi, voire même plus, de récupération. Parce que pour ceux qui ont déjà fait un peu de sport, quand on vieillit, on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup plus de récupération.
Plus on a besoin de récupération, exactement.
Comme je vous l'expliquais en intro, cette interview a été réalisée en deux fois. Je vous laisse donc découvrir l'autre partie de l'interview.
Je crois que nous avons une connaissance commune, Léa, qui est Finza Félix, et elle se prépare pour le marathon olympique. Donc elle souhaiterait obtenir sa qualification pour le marathon olympique de Tokyo, qui se déroulera le, si je ne m'abuse, 6 août de l'année prochaine. Et elle me disait que pour pouvoir prétendre à cette qualification, il fallait qu'elle remplisse les minima européens avant le 29 février 2020. Donc ça veut dire que toi, tu sauras si tu es qualifié pour les JO un mois avant. Les marathoniens, eux, le savent le 29 février.
Ouais, effectivement. Je n'avais pas connaissance de cette information. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a 2 ans pour se qualifier quand même pour les Jeux Olympiques. On avait aussi la saison 2019, on a aussi la saison 2020, enfin la moitié, une partie pour certains. Sauf que sur la saison 2019, les minima pour se qualifier directement sont vraiment extrêmement élevés et très 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 peu d'athlètes ont pu les réaliser. Donc voilà, on a une chance de le faire, mais elle est très 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 minime.
Alors rapidement, on a un petit peu chamboulé le programme, mais est-ce que tu pourrais quand même revenir pour la partie athlétisme, enfin notamment pour ton sport, donc le 4x400, est-ce que tu pourrais nous rappeler quels sont les critères? Est-ce que c'est les critères du comité international olympique qui les fixe? Est-ce que c'est la fédération française d'athlétisme? Est-ce que c'est les clubs? Enfin, comment est-ce que ça marche en France?
Alors donc il faut déjà faire la différence entre le 400 mètres individuel et le relais 4x400 mètres. Donc moi, dans un premier temps, je vise une sélection dans le relais 4x400 mètres parce que c'est ce qui est le plus atteignable. Pour être qualifié, pour qualifier le relais, donc pas me qualifier moi, hein, qualifier le relais, il faut que la France soit dans les 16 meilleurs mondiaux. Une fois que ça se sera fait, on sait que le relais français sera qualifié. Et ensuite, pour savoir qui courra dans le relais, la sélection se fera un mois avant, c'est-à-dire lors des championnats de France élite, là, qui seront donc des championnats individuels, où les sélectionneurs sélectionneront probablement les 6 meilleurs sur ce jour-là. Donc après, il y a toujours 2-3 échappatoires en cas de gros soucis sur une des meilleures, par exemple. Quasiment l'intégralité de la sélection va se faire à ce moment-là.
Je me rappelle d'un de tes anciens podcasts, Barthélémy, où tu interviewais un kayakiste qui qui étaient en équipe. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce schéma de qualification. C'est assez assez injuste quelque part, puisque c'est l'équipe qui se qualifie et puis après on va prendre juste les meilleurs, et encore on n'est pas certain d'être dans la liste.
Ouais, j'ai l'impression pour plusieurs sports d'équipe ou en tout cas des sports individuels qui ont aussi une discipline en équipe, effectivement il y a à la fois le duo ou le quatuor qui va importer, et aussi les performances individuelles, et la direction technique, la fédération peut avoir un droit de regard sur la sélection qui va être portée aux Jeux Olympiques. Effectivement, c'était pas en kayak, il me semble, c'était en avion, à peu de choses près, c'était ça. Et en plus, il me semble, tu confirmeras, Léa, mais là, ça fait quand même, quand on regarde ton palmarès, on voit que vous avez une super, il y a toute une génération assez exceptionnelle. Comment est un peu l'ambiance entre les différentes athlètes, j'imagine, la compétition est saine, ou comment est-ce que vous vous entendez les unes par rapport aux autres?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a une bonne ambiance. Il y a souvent une bonne ambiance. Après, forcément, des fois, ça peut être compliqué parce que il faut pas oublier qu'on fait un sport individuel. Donc, au départ, on a quand même l'esprit pour faire un sport individuel qui est totalement différent. Je pense quand même qu'il est assez différent que des sports d'équipe, de l'esprit qu'on peut avoir en sport d'équipe. Et donc, on est concurrente toute l'année, en fait. On est adversaire toute l'année et on se retrouve une ou deux fois dans l'année à être coéquipière. Donc, il y a un petit switch à faire dans la tête qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Après, la plupart du temps, ça se passe très bien, et c'est aussi pour ça qu'on a de bons résultats. Mais je dirais pas que c'est contre nature, mais il y a quand même ce petit travail à faire et ce petit changement de mentalité à opérer pour que ça se passe bien.
D'accord, ok. Ouais. Donc j'imagine que il y a un petit passage et une adaptation. Et par rapport effectivement à la qualification aux Jeux Olympiques, il n'y a pas spécialement de si vous êtes qualifié en équipe, vous êtes obligatoirement qualifié en individuel.
Ah non, pas du tout. Non. C'est souvent arrivé qu'il n'y ait que le relais qualifié et aucune individuelle. C'est ce qu'on nous reproche, entre guillemets, justement, dans cette génération dont tu parlais. Souvent, les journalistes nous disent c'est assez fou parce que ces filles, elles sont pas dans le top niveau mondial. En individuel, elles ont un peu du mal à exister, ce qui est plus ou moins vrai, hein, suivant les coureuses. Mais quand on est en équipe, on arrive toujours à se transcender et à faire des choses très bonnes. Mais on n'est pas forcément qualifié pour l'individuel, même assez peu souvent finalement.
Alors, une question justement, parce que l'objectif de ce podcast, c'est quand même de parler du financement de la carrière des sportifs de haut niveau. Oui. Vu que tu parles de participer en équipe, donc au relais, aussi bien en individuel, mais aussi au relais, est-ce que du coup, vous allez chercher des sponsors uniquement en individuel, ou vous allez aussi chercher des partenaires qui vont participer à l'équipe?
Alors non, ça c'est trop compliqué. Les partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent l'équipe, ça peut être que la fédération ou le sponsor de la fédération. Mais sinon, chacune des athlètes a ses obligations, a ses propres partenaires, a ses propres sponsors, et ce serait pas possible. Donc c'est pour le coup, pour la recherche des partenaires, c'est chacune de notre côté.
Mais alors, comment est-ce que vous gérez justement si vous vous retrouvez avec cette équipe, avec une qui serait sponsorisée par un grand équipementier sportif, et puis l'autre qui est sponsorisée par un autre équipementier du coup. Alors effectivement, quand vous vous retrouvez pour la compétition, vous avez tous le maillot à l'effigie du pays, en l'occurrence de la France, mais si vous êtes sponsorisé par plusieurs équipementiers différents, comment est-ce que vous gérez ça au quotidien?
C'est ce qui arrive tout le temps, hein. On est tous à peu près il y en a chacune avec un équipementier différent. Donc quand on est sous les couleurs de l'équipe de France, on porte l'équipement de l'équipe de France et l'équipementier de l'équipe de France. Ensuite, par exemple, pour les pointes, les chaussures avec lesquelles on court, on a celles de notre équipementier. Donc, c'est là qu'on peut mettre en valeur notre équipementier. Il y a des petites astuces, mais quand on voit des athlètes champions du monde poser avec leurs pointes autour du cou,
par exemple, qu'ils accrochent avec les lacets autour du cou. C'est pas juste comme ça, c'est bien vu avec l'équipementier pour afficher l'équipementier. Voilà, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on peut les représenter, et ce qui est normal aussi parce que c'est eux qui nous soutiennent financièrement toute l'année.
Comment est né ton besoin de financement, et donc comment est-ce qu'a commencé ta carrière sportive professionnelle, et oui, comment est-ce que tu as été à la recherche de ton premier partenaire?
Alors, j'ai du mal à me souvenir de quand j'ai été à la recherche de mon premier partenaire. Et donc moi, je faisais mon sport et je m'occupais de mes études. C'était mon job, en fait. Et mes parents assuraient financièrement autour, si je puis dire. Mais ça va jusqu'à 22, 23, 24, 25 ans. Et puis, ça commence un peu ensuite à être pesant. Quand on voit aussi... ses amis de sa génération devenir indépendants financièrement, on commence aussi à en avoir un peu marre de dépendre toujours des parents, et puis même pour eux. Moi, je voulais aussi les libérer un peu de tout ça, donc je me suis dit qu'il fallait que je commence à essayer de me financer par moi-même. C'est aussi à cette même période, par exemple, qu'on a fait championne d'Europe en salle. Donc, c'était aussi le bon moment pour essayer de commencer à trouver des sponsors. Je pense que c'était à cette période. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer, à essayer de cibler d'abord des entreprises qui pouvaient potentiellement être intéressées, puis à rédiger des mails, les envoyer, etc., à entrer dans un peu dans la prospection.
Alors, il y a pas mal de sportifs, en tout cas français, qui arrivent à obtenir des jobs avec soit des grandes entreprises, soit les administrations françaises. Je pense à EDF, Engie, l'armée ou autre. Enfin, est-ce que ça t'était venu à l'idée, ou éventuellement est-ce qu'on te l'a proposé, ou pour les mêmes raisons que tu as évoquées, c'est quelque chose que tu as balayé tout de suite?
Alors, ça, c'est vrai que c'est assez important d'en parler, et je voulais l'aborder. En prospectant, moi, j'étais tombée sur une de ces entreprises qui sont censés accueillir des sportifs de haut niveau. Le but, c'est de signer des contrats d'image et de les dégager à 100%. Donc, ils viennent dans l'entreprise une fois de temps en temps, voir les collaborateurs, etc., afficher le partenariat, si je puis dire, mais ils ne travaillent quasiment jamais dans l'entreprise, ou assez rarement, que quelques jours dans l'année. Et donc, le patron, le chef d'entreprise, était très intéressé par mon projet. Il m'a dit il faut voir avec la fédération, parce que c'est elle qui fixe les modalités d'accès à ce type de contrat. Et c'est la problématique que je rencontre tout le temps. Moi, je suis sportive de haut niveau, j'étais pas assez à haut niveau pour accéder à ce type de contrat qui est réservé aux potentiels médaillables olympiques. Donc, le problème, c'est que les potentiels médaillables olympiques, il y en a assez peu, et souvent, c'est des gens qui ont déjà de très gros partenaires financiers en termes de sponsoring, etc. Donc, c'est pas forcément, enfin, je comprends tout à fait, mais c'est pas forcément ceux qui ont le plus besoin. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que moi, je suis souvent entre deux eaux, si je puis dire, et soit je suis trop forte pour une petite structure qui me dit oui, mais nous, on soutient que des actions locales, etc. C'est de l'international, ça ne nous intéresse pas. Ou pas assez forte quand on me dit oui, mais ça, c'est des postes qui sont réservés aux potentiels médaillables, etc. Donc, c'est toujours un peu compliqué de se positionner à ce niveau-là.
Bon, ça ne nous avance pas sur le schmilblick de comment est-ce qu'on peut aider les sportifs à financer leur carrière, finalement. Parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que les dispositifs vraiment spécifiques sont souvent pour ceux qui ont déjà un track record, et donc déjà un beau palmarès, et potentiellement déjà de gros partenaires.
Tout à fait, ouais. Après, c'est bien qu'il soit soutenu, mais c'est vrai qu'il y a la couche du dessous qui a beaucoup plus de mal, pour le coup, à trouver des partenaires, et c'est pourtant... Voilà, on va aux Jeux Olympiques, on fait quand même de bons résultats, mais malheureusement, on est beaucoup moins soutenu.
Bon.
Ouais, je vois aussi qu'il y a une difficulté des marques à se projeter avec des sportifs, alors que justement, une marque aurait tout intérêt à effectivement être créer une histoire, créer une relation un petit peu particulière. Et effectivement, même ça peut créer de la cohésion au niveau des employés, de se dire voilà, on soutient quelqu'un, on sait qui est-ce qu'on va suivre et de mettre voilà quelques dizaines, quelques centaines d'employés un petit peu derrière un athlète comme toi. Mais c'est vrai que le fait de créer cette histoire là effectivement c'est difficilement ton job toi en tant que sportive et les marques ont souvent du mal à le faire parce que en termes de stratégie de communication tu l'as dit un petit peu tout à l'heure c'est très processé, il y a beaucoup de prise de
décision
et du coup c'est pas évident de changer un petit peu la trajectoire qui a été donnée et l'histoire que la marque a envie d'écrire quoi. Donc moi je le vois aussi et du coup je rebondis sur une autre question. Je regardais un petit peu tes réseaux sociaux et j'avais vu que tu avais travaillé avec deux trois partenaires. Est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant?
En avant, tu veux dire quand je démarche des entreprises?
Ouais, est-ce que tu en discutes avec eux? Est-ce que ça rentre un petit peu dans la stratégie de coopération et de partenariat?
Alors oui, tout à fait. C'est quand même assez important pour les entreprises tout ce qui est réseaux sociaux et ça fait partie des choses que je mets en avant, bien sûr. Moi, je me force un peu, j'avoue, parce que les réseaux sociaux c'est pas forcément mon truc, mais je le fais de manière professionnelle parce que d'un côté j'ai des partenaires et c'est un moyen assez simple finalement et assez efficace pour les mettre en avant, et de l'autre côté aussi parce que j'ai une communauté de personnes qui me suivent. Et ça me fait plaisir et j'ai envie de leur donner des nouvelles assez souvent. Mais donc voilà. Après, c'est pas la seule chose que je vends. Comme tu disais, en termes de stratégie d'entreprise, il y a des choses aussi qui sont très intéressantes en communication interne, si je puis dire, en team building et des choses comme ça. Et c'est pour ça que là, je propose de venir en entreprise, intervenir sous forme de sorte de conférence sur les parallèles qu'on peut avoir entre le sport et l'entreprise. Je propose aussi, suivant les besoins de l'entreprise, pourquoi pas d'échanger de manière beaucoup plus...
De façon moins formelle et...
Voilà, de façon moins formelle, merci. Autour d'un dîner, d'un repas avec certains collaborateurs, ou alors autour d'un entraînement qu'on fera ensemble, des choses comme ça. Ça, c'est aussi des choses que les entreprises aiment bien. Donc, la communication interne, le team building, et qui fonctionne aussi très bien parce que je sais, moi, qu'après, je reçois pas mal de messages des collaborateurs qui suivent ensuite mon parcours et qui sont contents de voir ce que ça donne. Ils savent que l'entreprise me soutient et ils suivent vraiment les résultats après, ce qui se passe en compétition. Ils en parlent après entre eux et donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne.
Génial.
Pour rebondir un petit peu sur le fait qu'on parlait des marques tout à l'heure, j'ai cru voir que tu avais fait appel à Sponsorize Me dans une de tes campagnes de financement. Juste avant qu'on aborde ce point-là, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on devient athlète pro et comment est-ce que tu montes ton budget en fait? Comment est-ce que tu montes ton budget pour vivre au jour le jour? Est-ce que tu vis uniquement de ce que t'apportent tes partenaires ou est-ce que tu as d'autres modes de financement?
Alors aujourd'hui, je suis payée à mi-temps par la fédération d'athlétisme, donc au SMIC à mi-temps. Donc je touche un peu moins de 600 euros par mois, tous les mois. Donc ça, c'est mon fixe. Donc c'est assez peu. Et c'est pour ça que j'ai des partenaires à côté qui complètent mon budget. Ensuite, dont Nike principalement, qui est mon équipementier. Comment on définit son budget? Tout simplement, il y a toujours le souci des besoins sportifs qu'on peut avoir. Par exemple, partir en stage pendant 2 semaines en plein hiver dans un endroit un peu plus chaud pour s'entraîner dans des meilleures conditions. Donc là, il faut financer le stage, l'hébergement, les billets d'avion. Il faut que je finance aussi mon entraîneur parce que j'ai besoin de lui pour m'entraîner, etc. Donc ça se budgétise. Donc je fais tout un budget avec ça, les besoins que je peux avoir en termes de médicaux.
En gros, c'est les deux gros postes, mais il y a aussi les postes de tous les jours, finalement, hein, payer son loyer, payer sa nourriture, son alimentation, qui est souvent assez chère quand on est sportif de haut niveau parce qu'on ne peut pas manger n'importe quoi. Mais ça, c'est beaucoup plus. Enfin, on ne peut pas vendre ça aux entreprises, on ne peut pas dire j'ai besoin de financement pour payer mon loyer et payer mon alimentation. Alors, c'est la réalité, hein, pourtant, mais c'est sûr que ce n'est pas ce que je vais mettre en valeur quand je fais mes budgets et mes tableaux prévisionnels.
Ça représente combien de stages à peu près par an? Tu t'en as mentionné un durant l'hiver, il y en a peut-être d'autres.
Oui, alors j'en ai un en hiver, j'en ai un au mois d'avril normalement, là, qui devrait être en mars vu que la saison est un peu avancée. Voilà, c'est les deux gros stages que j'ai dans l'année. Après, si on peut partir plus, on le fait, mais ça, c'est les deux qui sont quand même assez importants.
Ok, d'accord. Et pour tout ce qui est coach et kiné, ça aussi, c'est quelque chose que tu mets, que tu dois mettre dans ton budget, j'imagine.
Oui, voilà, coach, kiné. J'ai une préparatrice mentale aussi qui est très utile, qui m'apporte beaucoup, parce que ça, c'est encore autre chose. On en parle assez peu de la préparation mentale chez les sportifs de haut niveau. Et donc voilà, elle me suit sur toute l'année. Les séances sont à 60 euros, donc c'est pareil, c'est un budget assez important, hein, sur une année. Et ça, c'est quelque chose que je peux mettre en valeur dans mes budgets, par exemple. C'est quelque chose qui s'entend. Mais voilà, il faut avoir conscience de tout à côté, de tous les besoins financiers au quotidien qu'on peut avoir. J'ai un véhicule, il faut que je paye l'assurance, il faut que je paye l'essence, je fais des déplacements, etc. Donc voilà quoi, les dépenses quotidiennes.
Voilà, le quotidien des sportifs, et on ne le dira jamais assez, les sportifs sont simplement des gens normaux comme tout le monde, et on a, enfin, vous, les sportifs de haut niveau, vous avez aussi les mêmes besoins et les mêmes charges, en plus des charges qui sont liées à votre métier. Quand on travaille en entreprise, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on arrive le matin, on fait notre job, on repart le soir, et à la fin du mois, on touche un chèque ou on reçoit un virement. Pour les sportifs de haut niveau, il faut aussi assumer les structures qui sont derrière. Tout ça pour dire que je crois que la recherche de financement pour un sportif de haut niveau, ça relève vraiment du parcours du combattant. Donc toi, dans le cadre de ta recherche de financement, à un moment, tu es tombé sur Sponsorize Me. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer comment se déroule la campagne de financement participatif avec cette entreprise?
Alors oui, alors moi, j'avais vu que Sponsorize Me avait mis en place des campagnes de financement. Je me demandais s'il fallait que je le fasse ou pas. Je n'étais pas bien sûre. Donc au départ, je n'y suis pas allée. Puis finalement, c'est eux qui m'ont contactée pour me proposer de le faire. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais le faire. On a mis en place le projet. Moi, je crois que j'avais, je ne sais plus si c'était 3 000 ou 5 000 euros. C'était peut-être 5 000 euros, je me souviens plus, c'était il y a 4 ans. Et j'ai atteint ces 5 000 euros, donc ça m'a beaucoup aidée. Bon, Sponsorize Me prend une petite partie, c'est normal. Ça m'a beaucoup aidée dans ma préparation. Après, c'est quelque chose que je ne referai pas quand même parce que la plupart des gens qui m'ont aidée sont des gens que je connaissais finalement. Et ça m'a un peu posé problème parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, naïvement, je me suis dit c'est des gens qui aiment le sport, qui me soutiendront, que je ne connais pas forcément. Mais non, l'essentiel du budget a reposé sur mes connaissances. Donc, j'ai été très touchée, mais en même temps très gênée. donc c'est un peu la limite que je peux voir sur ce type de dispositif.
Effectivement, parce que Sponsorize Me, ils ont aussi bien la partie financement participatif, le crowdfunding, où là, ils font appel aux gens,
aux particuliers,
voilà. Et je pensais qu'ils avaient aussi un système de mise en relation avec certaines marques, certains annonceurs, certains professionnels qui souhaitent aussi soutenir un athlète.
Alors ça, c'est possible, mais moi, j'ai pas du tout été dans ce cadre-là. Donc, je pourrais pas plus en dire là-dessus.
Ok.
Donc, mais c'est sûr que ce serait plus pertinent, je pense.
Oui, ça éviterait de faire appel à l'argent des amis ou des connaissances ou de la famille qui pourrait aussi finalement participer en direct en évitant aussi la petite commission pour les frais de fonctionnement de l'intermédiaire.
Oui, tout à fait.
Alors justement, tu disais que pour revenir un petit peu sur ce parcours du combattant du financement, toi tu vas régulièrement, donc j'ai bien compris que c'est pas forcément une fois dans l'année, mais c'est tout au long de l'année, tu vas systématiquement à la recherche de partenaires. Comment ça se passe une fois que tu as rencontré un partenaire? Est-ce que vous négociez des apports en nature, donc je sais pas, du produit par exemple, ton équipementier Nike va te donner du matériel, est-ce qu'il y a aussi un apport financier, et puis la suite, comment est-ce que ça se passe après quand vous arrivez à la fin du contrat? Déjà, est-ce que ce sont des contrats de quelques mois, de quelques années? Comment ça se passe tout ça?
Alors, ça, c'est très différent et ça dépend vraiment de l'entreprise que j'ai en face de moi. Cette année par exemple, c'est sûr même, ce sera ma dernière préparation olympique. Je me suis dit que j'allais faire les choses un peu différemment des éditions précédentes. J'ai décidé de cibler des entreprises qui étaient en rapport avec mes valeurs. Donc, moi, je suis très attachée à tout ce qui est protection de l'environnement, écologie, à tout ce qui est alimentation aussi assez pointu, bio, etc. Je mange pas de produits laitiers, par exemple, plein de choses comme ça. Donc, je fais vraiment attention à ce que je mange. Et donc, j'ai démarché ce type d'entreprise. Donc, dans un premier temps, forcément, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai eu beaucoup plus de retours positifs qu'en démarchant n'importe quelle entreprise comme ça. Et mais le souci, c'est que pour beaucoup, c'est des contrats produits. Donc, ils sont très bien, par exemple. Je sais que j'ai commencé une collaboration avec une marque bio, de produits bio, Marcal, qui me fournit 100 € d'alimentation par mois. Donc, ce qui est une grosse aide pour moi dans mon budget, justement, donc alimentaire, quand on parlait de dépenses quotidiennes. Mm-hmm. Par contre, pour beaucoup d'entreprises, c'est aussi comme ça. Je suis fournie en produits, mais pour ce qui est de la partie financière, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile d'accès.
Ouais, donc ça diminue le budget, mais ça ne paye pas le loyer.
C'est ça, exactement. Donc, et puis à un moment, je me suis retrouvée avec que des oui, super, donc avec plein de produits, mais finalement, zéro financier. Donc, voilà. C'est une balance, c'est un équilibre à avoir. Donc ensuite, je me suis tournée vers des entreprises toujours sensibilisées dans l'écologie, par exemple. Essayer d'obtenir un peu plus de contrats financiers en termes de produits. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis très bien lotie. Et maintenant, il faut passer un peu plus sur la partie financière qui paye le loyer, comme tu dis.
Effectivement. Et du coup, quand tu arrives à la fin de ces contrats, comment est-ce que tu négocies la suite? Tu reviens vers eux et vous relancez dans une négociation
Oui, j'ai oublié de répondre à cette partie de la question. Alors, ça dépend. Donc, il y a des entreprises avec lesquelles, sur des petites dotations de produits, ça se fait vraiment comme ça. J'ai pas de contrat. J'envoie un mail quand j'ai besoin de quelque chose. Ils m'envoient un petit colis et ça se fait vraiment de manière informelle. Et souvent, j'ai de très bonnes relations avec ces entreprises aussi. C'est pour ça que ça se fait de manière informelle. Quand c'est des plus grosses entreprises, que c'est des dotations plus importantes ou du financier, là souvent il y a des petits contrats qui sont faits, mais c'est vraiment pas du tout de lourds contrats ou très compliqués, c'est juste histoire de formaliser les choses, et c'est souvent sur une saison et c'est reconductible sur chaque saison en fonction du bon vouloir de l'entreprise ou de moi-même. Ça se reconduit parce que j'ai quand même de bonnes relations avec mes partenaires. J'essaye de faire aussi attention à ça. Je n'irai pas avec quelqu'un, une entreprise avec laquelle j'ai pas eu de bons ressentis. Si je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Je sais qu'un partenaire peut devenir très vite pesant. Et c'est pas le but de me rajouter encore une charge mentale, comme on disait là-dessus. Donc, pour le coup, je préfère tant pis passer à côté même d'une partie financière, mais d'être tranquille, entre guillemets.
Et tu penses que je sais pas si c'est si certaines entreprises l'ont déjà fait, mais est-ce que tu as déjà eu des propositions un petit peu pour la suite de ta carrière aussi, Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont abordé ce sujet-là avec toi et qui t'ont proposé, je sais pas, de continuer une relation vraiment long terme et de voir plus loin que ta carrière sportive?
Alors oui, il y en a quelques-unes, c'est assez rare hein, quand même, mais il y en a quelques-unes qui m'ont dit bah oui, pourquoi pas, si par exemple, vu que je m'intéresse à l'alimentation de manière assez poussée, bah pourquoi pas continuer sur un partenariat là-dessus, ou alors vu que j'ai fait une école de commerce, que j'ai quand même fait une spécialité, pardon, communication et stratégie de marque, il y en a que ça intéresse pour éventuellement bah, que j'occupe un poste après, voilà, mais c'est quand même assez rare, j'ai eu une ou deux propositions de ce type-là.
Donc c'est des entreprises sur qui tu peux compter, quoi.
Oui, c'est ça qui est bien. J'essaie d'éviter quand même les one-shots quand je sens que l'entreprise, c'est juste sur une fois, donner une somme. Pour moi, ce qui fonctionne vraiment, c'est quand il y a un minimum de relations sincères, entre guillemets, entre l'entreprise et le sponsorisé, entre guillemets.
Ouais.
Voilà. Donc du coup, tu es presque en train de dire que ta reconversion se passera très certainement mieux que ta recherche de sponsor actuel pour continuer à être athlète professionnel.
Alors, je ne sais pas, parce que je ne sais pas encore comment s'écrira ma reconversion, mais c'est possible, effectivement, oui. C'est possible.
C'est vrai que tu nous as dit que tu étais toute seule dans cette recherche, mais je voulais savoir si la Fédé un peu vous donnait des cours ou vous accompagnait un petit peu par rapport à ça. Et je pose une deuxième question dans cette question-là. Est-ce que vous donnez des tips entre athlètes, justement, parce que c'est un sujet que vous devez tous et toutes traiter, et du coup, est-ce que vous en parlez entre vous? Comment est-ce que ça se passe un petit peu la relation entre vous et avec la fédération par rapport au sponsoring?
Alors effectivement, quasiment, alors à part les tout meilleurs, on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Et malheureusement, non, je me suis souvent fait la remarque qu'on n'a aucune... on n'a pas vraiment de formation pour ça de la part de la Fédé. Après, on a je sais que moi, il y a la région Rhône-Alpes qui met en place avec ADECO, par exemple, des espèces d'ateliers sur un ou deux jours pour aider les sportifs de haut niveau à se vendre et à trouver des partenaires. Mais la fédération, malheureusement, ne le fait pas. Ensuite, moi, je sais que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir fait des études là-dedans et de pouvoir le faire. C'est pas du tout le cas de tous les athlètes. Il y en a qui auraient beaucoup de mal à se vendre parce qu'ils sauraient absolument pas par quoi commencer. Donc, c'est sûr qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Entre athlètes, après, oui, moi je sais qu'avec, par exemple, mes coéquipières du 4x400 mètres, justement je parlais que j'avais beaucoup de dotations produits, je cherchais un partenaire de thé et d'infusion parce que j'en bois beaucoup, et il y avait plusieurs marques qui m'avaient répondu favorablement, j'en ai choisi une, et les autres, je les ai reconduits vers mes coéquipières, et puis donc il y en a qui sont un peu moins à l'aise aussi que moi pour ça, donc ils me demandent un peu en termes de mail, d'accroche, s'il faut faire comme ci, comme ça, si c'est pas trop court, pas trop long, etc. Donc on essaye de s'aider un peu comme on peut, quoi. On essaye d'être solidaire.
Du coup, ça fait une bonne idée de business, un intermédiaire qui va aider les sportifs à se mettre en relation avec les partenaires potentiels.
Ouais, c'est sûr, parce qu'on a des agents en fait en athlétisme. Moi, j'ai un agent, mais des agents, leur but, c'est de, un, nous inscrire sur les compétitions, et deux, nous trouver un équipementier. Et ça s'arrête là, en fait. Mmh. Le travail de l'agent en athlétisme ne va pas plus loin. Il ne cherche pas de partenaire pour ses athlètes, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a une idée de business là-dessus. Ce n'est pas le plus facile, mais ce serait très utile.
Bon, je note.
On peut parler des plateformes. Je ne vais pas citer les noms, parce que c'est pas l'objet ici de leur faire de la pub, mais des plateformes qui te mettent justement en relation avec des entreprises, mais c'est plutôt pour faire de la conférence et de la prise de parole.
Ouais, alors moi, je me suis inscrite dessus. J'ai pas eu de retour ensuite. Donc voilà. Après, je suis pas hyper proactive sur le côté conférence et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de travail. J'ai pas forcément le temps de m'y mettre à 100%. Donc voilà. Je pense que si j'étais peut-être un peu plus active là-dessus, j'arriverais à décrocher deux trois clients.
Mais voilà, j'ai pas forcément le temps de le développer, donc je le cherche pas plus que ça.
Ouais, puis tu l'as bien dit, la relation est pas la même. Hein. C'est des clients et toi qui es du coup presque pour eux. Tu connais des sportifs qui utilisent ces plateformes ?
J'ai vu que sur les sites internet, il y avait des sportifs que je connaissais, mais ça fait un moment, donc je me souviens pas. Et pour qui ça marche bien, non. Enfin, je j'ai pas là de sportifs à ma connaissance qui font régulièrement des conférences.
Alors, je pense que, enfin, moi personnellement, j'aurais encore des milliers de questions à te poser, Léa. Est-ce que malgré tout, comme le temps file, tu avais quelques points, quelques sujets que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé ?
Juste un dernier. Ce rapport qu'on peut avoir en fait entre l'ombre et la lumière, qui est assez auquel il faut s'habituer. Je trouve ça assez marrant, assez intéressant. Et bon, après, ça, ce qui est bien, c'est que ça permet de garder les pieds sur terre. Mais surtout les années olympiques, il y a un énorme contraste en fait entre toute la préparation qu'on fait finalement dans le noir, en essayant de chercher, de se démener pour chercher des partenaires, en essayant de taper à toutes les portes, etc., sans avoir énormément de reconnaissance. Et le moment où on est finalement, ça y est, on est qualifié, on est aux Jeux Olympiques. Et là, c'est toutes les lumières sur nous. Aux Jeux Olympiques, tout est fait pour nous. On reçoit des cadeaux à longueur de journée pendant 15 jours par toutes les marques possibles et inimaginables. Tous les médias s'intéressent à nous. Et du coup, c'est vrai que ça fait un énorme contraste, en fait. On passe constamment de l'ombre à la lumière. C'est un peu ça, je pense, le quotidien de la plupart, finalement, des sportifs de haut niveau, hormis les très, très connus, les mondialement connus. On est toujours en train de jongler entre ce côté où on n'est pas du tout, on sent finalement pas du tout soutenu et reconnu, et le côté où, quand on fait une bonne place, une bonne performance, un bon résultat, d'un coup, tous les projecteurs sont, pour quelques temps, de manière assez éphémère, mais tournés vers nous, quoi.
Donc, c'est le bon moment où il faut aller à la recherche de partenaires. Donc, en gros, quand tu arrives sur une grosse compétition, il faut préparer ton dossier, que tout soit prêt, et limite que tu, à la manière de certains commerciaux qui balancent les cartes de visite sur les réseaux de networking, faut faire la même.
Ce serait à peu près ça, ouais. Ce serait ce qu'il faudrait faire. Mais bon, après, je me vois mal couper la parole pendant l'interview de Nelson Montfort et dire, au fait, je recherche des sponsors. Et puis ensuite, ce serait maladroit, j'imagine, mais c'est ce qui fonctionnerait, je pense.
En même temps, on parlait pas forcément de couper la parole à Nelson Montfort, mais peut-être surfer sur cette vague-là au moment où tous les partenaires potentiels viennent te voir et relancer en rappelant que justement le quotidien d'un sportif de haut niveau, c'est pas toujours d'être sous les feux des projecteurs et au contraire de chercher à y être, et que pour ça il faut avoir un petit peu de moyens.
J'imagine que tu profites aussi un petit peu parce que c'est un peu la récompense de plusieurs années de travail, donc tu vas pas forcément te dire dans les moments où tu savoures un peu.
Exactement.
Un peu au charbon. Alors, et en plus, c'est la période estivale, donc plus ou moins les vacances, même si vous, au final, vous êtes en décalé. Yeah. Il y a une euphorie autour de vous qui fait que c'est quand même difficile, j'imagine, de penser à ce genre de choses.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Comme je le disais, on a beaucoup abusé de ton temps, donc on va arriver sur la toute dernière partie de cette interview. En tout cas, je voulais juste te dire que je note pour ta partie préparation mentale, puisque moi aussi j'ai d'autres podcasts, et notamment le podcast de Nakane. Sur la prochaine saison, on a prévu de faire un épisode spécial sur la préparation mentale, donc maintenant que j'ai tes coordonnées, si tu veux y assister et donner ton avis, eh bien on t'invitera avec plaisir.
Eh bien, avec plaisir.
J'aimerais lancer cette série de podcasts en la terminant par deux questions. Je vais peut-être poser la première et puis je laisserai Bart poser la deuxième, parce que c'est le genre de questions qu'il a l'habitude de poser sur son podcast aussi. Allez, ouais. La première, si tu pouvais te transformer en petite souris, remonter dans le temps et revenir au tout début où tu envisageais d'être sportif professionnel et que tu pouvais te donner un ou deux conseils, qu'est-ce que tu te dirais ?
Alors, je me dirais de profiter vraiment de chaque moment, parce que quand on est jeune, on se dit que qu'on a toute notre carrière devant nous, qu'on a une dizaine d'années, que ça va être très long et tout, mais c'est très 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 court, ça passe très très vite. Il y a les saisons blanches avec les blessures aussi, donc des fois on se dit j'ai pas été très bon cette année, tant pis, ce sera l'année prochaine. Mais non, on n'est pas sûr que l'année prochaine ça se passe mieux. Donc ce serait vraiment de profiter intensément de chaque moment.
Super.
Et je rebondis avec ma question. Quel est ton plus beau souvenir et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'émotion que tu as vécue à ce moment-là?
Alors, mon plus beau souvenir, je pense que c'est ma victoire au championnat de France élite en 2011 à Albi. Parce que j'avais 21 ans, j'étais très jeune, c'était mes premiers championnats de France élite, donc chez les grands. Avant, j'avais fait que des championnats de France junior ou espoir dans mes catégories. Et donc, c'était l'année où il y avait une très, très grosse génération de coureuses de 400 mètres bien plus fortes que moi. Donc, il y avait Muriel Urtis, Floria Gay, Marie Gaillot, etc. Et donc, moi, je venais juste pour découvrir l'événement, en fait. Hein. C'était un premier... c'était juste, une première fois chez les grands. Donc, j'étais toute contente d'être là, etc. En plus, ma saison s'était passée de manière un peu terrible. J'ai souvent des gros soucis de tendinite d'Achille. Et donc, j'ai eu très, très mal jusqu'en avril. Je n'ai pas pu m'entraîner. Donc, en avril, on a failli arrêter la saison. Et finalement, ça s'est un peu arrangé dans les derniers mois. Donc, c'était vraiment... je venais vraiment un peu la fleur au fusil, j'étais contente parce que la forme montait doucement et je voulais juste voir ce que ça donnait. Et donc déjà je passe en finale, je suis très contente, le contrat était amplement rempli, je rentre dans les 8 meilleures françaises, super contente et voilà. Et finalement je fais ma finale et je sais pas ce qui se passe. Il y avait beaucoup de vent de face, ligne droite opposée. Je pense que les filles qui avaient beaucoup plus de pression que moi, qui jouaient quelque chose, sont parties très très vite et se sont fatiguées aussi dans les premiers 200 mètres en luttant contre le vent. Moi, je suis passée beaucoup plus lentement. Et du coup, elles ont eu beaucoup de mal à finir et tout le monde a craqué finalement dans les 50 derniers mètres à cause de ce vent. Et moi, je rattrape tout le monde et finalement, je casse... Marie Gaillot, la dernière sur la ligne. Et voilà, ça a été incroyable, quoi, parce que vraiment, ça aurait pu être un mauvais film, un peu ambiance, tout le monde à la fin gagne, etc. Enfin, tellement que ça s'est passé de manière extraordinaire, quoi. Je ne devais absolument pas gagner. Et j'ai gagné à la fin au cassé. Au centième près, je me souviens que le speaker ne connaissait même pas mon nom, donc il pouvait même pas annoncer la gagnante, il ne savait pas qui j'étais. C'était vraiment incroyable et c'est aussi pour ça que je m'entraîne, pour des moments comme ça où personne ne t'attend, mais que tu réussis à faire quelque chose de bien qui scotche tout le monde, quoi.
Waouh, quelle histoire!
Ouais.
Merci beaucoup pour ce partage. Allez, juste pour terminer, parce qu'on va devoir te libérer, mais si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou sur Internet, est-ce que tu as quelques adresses à nous donner pour nos auditeurs?
Alors oui, donc j'ai un compte Instagram, donc Elia Diarra, D-I-A-2-R-A. J'ai une page Facebook aussi, Elia Maria Madiarra. Normalement, avec Elia Diarra, on trouve. C'est plus simple et moins long. Et voilà, pour le principal.
Ok, de toute façon, on mettra tout dans les notes de l'émission. Et puis, je te remercie encore pour ce partage, pour le temps que tu nous as accordé. Je pense qu'on te souhaite tous bonne chance pour cette année olympique et on espère te voir à Tokyo dans quelques mois.
Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est vraiment très gentil de votre part. Et merci beaucoup. J'espère que je pourrai revenir pour vous donner de bonnes nouvelles sur cette année.
J'espère.
Est-ce qu'il y avait des points que tu voulais encore aborder, Bart, ou pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va peut-être pouvoir en rester là.
Écoute, je pense que pour ma part, tout est dit.
Alors, je pense que je rebouclerai avec la première partie qu'on avait faite. Mais en tout cas, on peut se faire une petite conclusion pour aujourd'hui. Et je te remercie énormément pour ta disponibilité. On a eu du mal à recaler cette
interview.
En tout cas, c'est génial. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Franchement, pour ce premier épisode, vous m'avez honoré de votre présence. Parce que la seule chose que je peux rajouter, c'est si vous avez apprécié cet échange, chères auditrices, chers auditeurs, allez voir dans les notes de l'émission. On vous mettra tous les liens pour suivre Eléa, pour rentrer en contact avec elle. Je pense que tu n'y verras aucune objection,
non,
Eléa.
Non, au contraire.
Et puis, surtout, n'hésitez pas à la soutenir dans cette année olympique, que ce soit par le biais de ses réseaux, en lui envoyant un petit coucou, et puis, évidemment, en suivant toute ton actualité.
Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir donné la parole. C'est toujours quelque chose d'intéressant d'avoir un peu l'inside, justement, parce qu'on nous donne toujours la parole au moment des résultats, au moment des championnats. Mais je pense que
finalement, est-ce que tout le cheminement avant ne serait pas aussi, voire plus intéressant. Donc, merci à vous pour cela. Et si d'autres personnes ont des questions ou veulent entrer en contact avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je suis assez disponible via les réseaux sociaux, normalement. Donc, voilà.
Et on se fera un plaisir
merci beaucoup,
de... excuse-moi, Hermano, mais en tout cas, on se fera un plaisir de, pourquoi pas, faire un follow-up après... Après cet été, on va dire nippon, et ça serait avec grand plaisir de pouvoir débriefer un petit peu avec toi et de partager les bonnes expériences que tu vas nous ramener de là-bas et voir le chemin parcouru. Ça pourrait être génial, je pense.
Eh ben oui, avec plaisir.
Bah, j'espère bien. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre temps, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.
Salut à tous.
Salut.
Félicitations, vous êtes toujours là après plus d'une heure d'écoute. Encore une fois, si vous pouviez nous rendre un petit service et aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire et une notation, évidemment, du 5 étoiles. Je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!